vais passer maintenant la parole à Antoine Garapon pour 15 minutes. Merci beaucoup.
Oui, merci. Ben, moi aussi, j'étais très intéressé par ces trois exposés et qui me semblent d'ailleurs parfaitement illustrés, qui s'accordent très bien entre eux pour avancer dans notre réflexion collective sur la vérité et ses rapports avec la justice. C'est-à-dire que je partirais de deux positions un peu extrêmes qu'on rencontre tour à tour chez les juristes ou chez les philosophes, pour laquelle tout d'abord il serait à portée de main ou d'audience de la justice d'établir une vérité judiciaire. Et donc, il y aurait des faits qu'on pourrait établir judiciairement. Et puis, à l'opposé, on trouve une position relativiste, très sceptique, disant tout cela, ce sont des rapports à la vérité. On l'a vu, on a eu des exemples ce matin, c'est-à-dire ce sont des discours, ce sont des effets de vérité, etc. Et il me semble qu'il faut essayer de médiatiser, de trouver des intermédiaires entre ces deux positions qui me semblent exagérément éloignées et les trois exposés qu'on a entendus cet après-midi permettent d'avancer. Ils permettent d'avancer parce qu'on pourrait dire qu'ils ont chacun éclairé un niveau de vérité, pourrait-on dire, ou un état de la vérité judiciaire. Et que je caractériserais comme ça. Tout d'abord, la vérité factuelle, établir des faits. Ensuite, une vérité juridique, qualifier des faits. Et puis enfin, une troisième prétention qui est le niveau politique ou celui de la justice, justifier des faits, justifier une interprétation des faits. Et il me semble que ces trois étapes permettent d'avancer. Alors, si on commence par ce qui nous a été dit par Patricia Naftali sur finalement cette revendication des familles argentines, certaines familles argentines, d'avoir un droit au fait. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, et c'est intéressant d'ailleurs pour une histoire rapidement du procès. D'ailleurs, déjà, Hannah Arendt le disait, elle remarquait dans Eichmann à Jérusalem, un procès, c'est toujours le procès d'un accusé. Et ce qui était surprenant à Jérusalem, c'est que c'était des procès dans lesquels le centre n'était plus occupé par l'accusé, mais par les victimes. Ça pose un problème. Et là, avec l'exemple argentin, on a un procès qui n'a finalement ni accusé ni victime, qui est centré autour des faits. Alors, et d'ailleurs, j'insiste sur ce fait, parce que j'insiste sur ce qui était déjà mentionné par Aristote en disant dans la rhétorique judiciaire, sa spécificité par rapport aux deux autres rhétoriques, c'est qu'elle doit établir des faits, sous-entendu des faits bruts. Et il me semble que ce qui est intéressant dans l'exemple argentin, c'est que finalement, on demande à la justice de se cantonner à établir des faits. Ce n'est pas sans précédent. En droit français, je pense à une action qui est l'action pour la recherche des causes de la mort. C'est l'action du coroner en common law, c'est-à-dire on demande à un juge d'établir les causes de la mort. Donc, savoir s'il s'agit d'une mort naturelle, d'une mort accidentelle ou criminelle. Je remarque aussi d'ailleurs qu'en droit français, c'était une proposition de notre président de la République qui était de dire, après un fait divers horrible où un malade mental était revenu tuer une infirmière de son hôpital psychiatrique à Pau, et il a été déclaré irresponsable, il était totalement fou, mais le législateur a dit oui, mais c'est pas normal parce que la famille a le droit de... Alors, savoir, tout le monde savait ce qui s'était passé, et je vais revenir là-dessus, mais le droit à ce que ces faits soient établis publiquement. Et donc, c'est une idée qui n'est pas liée uniquement au contexte du crime contre l'humanité. Alors, un droit à la vérité, on pourrait... moi, je n'aime pas beaucoup ces idées de deuil, parce que ça me semble être un peu une vulgate un peu suspecte. Bon, on pourrait y revenir dans la discussion, mais c'est... Ce qui est intéressant, c'est que dans le droit à la vérité, il y a cette idée que c'est un droit subjectif, en quelque sorte, que l'on aurait à l'égard de qui ? À l'égard de l'État. Et c'est important, c'est-à-dire que finalement la victime a une créance sur l'État pour savoir un certain nombre de choses. Et on pourrait d'ailleurs, en réfléchissant, se demander est-ce qu'il s'agit d'un droit à la vérité des familles ou est-ce qu'il s'agit d'une obligation qui pèse sur l'État, d'une obligation de dire, une obligation de dévoiler ce qu'il sait. L'État étant obligé, en quelque sorte, à la différence des organisations politiques non étatiques, ce qui caractérise l'État, c'est que l'État a une mémoire. Il est obligé d'avoir une mémoire. Il a des archives. C'est ce qui le caractérise. Bon. Et on pourrait réfléchir, s'arrêter sur cette idée que ce droit à la vérité, c'est peut-être plus une obligation, encore une fois, qui pèse sur l'État. Et c'est quasiment un droit à la transparence, idée très contemporaine, sur laquelle d'ailleurs on écrit beaucoup en ce moment, c'est-à-dire c'est une obligation de l'État que de laisser voir, c'est ça l'idée de transparence, de donner à voir, révéler. De révéler quoi ? De révéler un fait brut. Alors ça aussi c'est intéressant, c'est-à-dire... Et je crois que ce que demandent les familles, c'est de dire, voilà, on veut savoir notre proche, quand a-t-il été tué, où se trouvent ses restes, point. Il a été exécuté dans le stade, il est mort dans le chemin, etc., et son corps se trouve à tel endroit. Donc c'est un fait, j'insiste là-dessus, c'est un fait très matériel, on dirait en droit, c'est un fait brut, sans mauvais jeu de mots. Et c'est un fait avant même d'être un acte, un acte étant justement ce qui peut être imputable à une autorité. Alors, je suis pas très à l'aise avec le mot qui est employé d'ailleurs par Patricia Naftali, parlant de vérité symbolique, parce qu'il me semble que l'intuition est juste, l'expression n'est pas très heureuse. Dans le sens où il ne s'agit pas d'une vérité symbolique, il s'agit bien d'une vérité factuelle qui peut avoir un impact symbolique, ce qui est différent. Et il me semble que pour bien comprendre ce qui se passe, il faut faire intervenir une notion supplémentaire autour de laquelle on a tourné ce matin d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement d'un enjeu de connaissance, mais aussi d'un enjeu de reconnaissance. C'est-à-dire que il ne s'agit pas uniquement d'un droit subjectif pour connaître un fait objectif de la part des autorités. Il y a également une dimension officielle. On demande à l'État de reconnaître et de reconnaître ce qui est un acte particulièrement important, parce que on sait que dans l'acte de reconnaissance, il y a toujours deux idées. Deux idées que recèle d'ailleurs la langue anglaise et que confond la langue française. En anglais, reconnaître, ça peut se dire to acknowledge or acknowledgement or recognition. C'est-à-dire, j'admets les faits, je reconnais les faits, et en même temps, je vous reconnais en reconnaissant les faits. Alors, cet acte de reconnaissance, il est très important parce que finalement, il amènerait à distinguer ce qui est très important pour les régimes autoritaires, c'est-à-dire se détacher et faire un acte d'allégeance à la réalité historique. Oui, nous avons bien fait cela. Oui, cet acte-là s'est bien passé. Ce fait s'est bien passé. Il y a dans le procès Douche qui vient de se terminer au Cambodge, il y a un passage qui est saisissant. C'est que à S21, on torturait des gens qui étaient essentiellement d'ailleurs des membres du Parti communiste, qui avaient eux-mêmes beaucoup de sang sur les mains, et on les torturait pour qu'ils avouent avoir travaillé pour la CIA. Alors il y a un moment où le Douche se lève et dit au président, oui non mais je vous rassure tout de suite, la CIA dont il était question, c'était pas la CIA américaine. La CIA, c'était notre CIA, sous-entendu, c'était en fait une figure absolument fantasmatique et totalitaire de l'ennemi intérieur. Alors, et ce qui est cherché dans un procès, c'est de faire allégeance, à commencer par la réalité. Alors, on pourrait dire que La reconnaissance, c'est précisément cette dimension officielle, publique, de croyances partagées, qui sont absolument nécessaires. C'est-à-dire que la particularité d'un crime, c'est d'un crime passé, c'est que c'est un fait qui oblige. C'est un fait qui ne peut pas être pur objet de connaissance. On a parlé ce matin de Giordano Bruno, on en parle avec beaucoup de détachement, parce que dans le fond, ces faits ne nous obligent plus. Alors que les crimes commis par le régime de Vichy, ou je parle de mon pays, ou pendant la guerre d'Algérie, nous obligent toujours un peu, parce qu'ils pèsent toujours sur la mémoire nationale. On pourrait dire que l'histoire, c'est la connaissance sans reconnaissance, alors que la justice, c'est la reconnaissance de cette connaissance. C'est-à-dire du fait que nous appartenons, et alors ça permet de comprendre cette dimension culturelle, je ne sais pas comment la nommer, c'est-à-dire que dans le fond, cette reconnaissance n'est possible qu'à l'intérieur d'une communauté qui est créée par cette reconnaissance commune et qui génère à son tour cette reconnaissance. Donc il y a autour des faits un fort enjeu, non seulement de connaissance, mais de reconnaissance, et ça amène au deuxième point, qui est illustré par l'exposé de Martina Falkowska sur la question du génocide et l'enjeu qu'a représenté, notamment pour Srebrenica, la qualification de génocide. Alors, si vous voulez un petit détour pour les juristes et les non-juristes, il y a une distinction fondamentale en droit, c'est la distinction entre l'intention et le mobile. C'est-à-dire que l'intention en droit, c'est de désirer les conséquences de l'acte qu'on commet. Je porte des coups volontairement et je souhaite que ces coups fassent mal. Et le mobile, c'est les raisons pour lesquelles je porte ces coups. Et cette distinction est absolument centrale en droit pénal. Et elle est très importante parce qu'à mon avis, elle valide ce que je viens de vous dire, c'est qu'il faut distinguer des faits raccourcis en quelque sorte, c'est-à-dire des faits isolés qu'on peut tel jour à telle heure, le 15 juillet 1995 à Srebrenica, il s'est passé tel acte sur tant de victimes. Ça, c'est un fait qui est très, qui peut être circonscrit dans l'histoire. Et je vois un écho à cette circonscription dans cette distinction entre l'intention et le mobile. Je porte des coups et je le fais pour un projet plus lointain. Alors, la difficulté que pose la qualification de génocide et que me pose la qualification de génocide personnellement, c'est qu'elle confond l'intention et le mobile. La qualification de génocide, ça veut dire on reproche à des gens d'avoir commis des vols, des viols, des meurtres, des actes de séquestration et de l'avoir fait dans l'intention de destruction d'un groupe. Donc, l'intention et le mobile. Les juristes de droit canon appelaient distinguer entre les causes proximées et les causes remotées, les causes proches, les causes lointaines. Alors, c'est toute la difficulté du génocide. La difficulté du génocide, c'est que dans le fond, ça oblige à qualifier non seulement des faits, mais à dépasser la qualification des faits pour saisir un projet politique, une intention, quelque chose de plus long et donc nécessairement de plus problématique. La Cour, vous disiez à l'instant, Elisabeth, que la Cour n'arrive pas à circonscrire les faits qui lui sont donnés, ce réseau de causes à effet, parce que ce qui est en jeu, c'est la qualification de génocide, qui on pourrait dire le génocide, c'est une reconnaissance à la fois maximale et à une prétention universelle. Ce qui m'amène à un troisième niveau qui a été abordé par l'exposé de Cora Andrieux, qui est la question non plus seulement des faits précis et bruts, ni celle de la qualification, mais celle de leur interprétation dans un contexte historique. Et on va retrouver ça dans tous les crimes et dans tous les faits qui sont présentés à la justice quand elle veut sortir du cadre du droit commun. C'est le double démon argentin, c'est-à-dire c'est pas moi qui ai commencé, en gros. C'est l'autre qui a commencé, je n'ai fait que répondre, c'est la thèse de Nolte pour l'interprétation du nazisme, en disant oui, il y a une brutalisation des rapports, mais qui était en réponse à la brutalisation de la politique par Staline. C'est ce qu'on trouve, bien sûr, pour le Rwanda, ce qu'on trouve dans toutes les... Ce qui porte un nom, d'ailleurs, en droit de common law, c'est l'argument « tu quoque », toi aussi, hein, toi aussi, mon fils. Toi aussi, vous avez fait, et d'ailleurs à Nuremberg, il y a des passages absolument, des morceaux de bravoure, d'un point de vue juridique, sur la dénonciation par le procureur américain d'actes. Et en fait, la réponse allemande a été de dire, oui, bien sûr, on a fait ça, mais vous avez fait exactement la même chose dans le Pacifique. Et c'est vrai en plus. Et donc, on a... Bon. Alors, pour conclure, voilà, il me semble que... pour se sortir de cette difficulté, je dirais que la qualité de la vérité judiciaire est proportionnelle à sa concentration sur des faits précis dans une communauté politique précise. C'est-à-dire que lorsque on veut établir la vérité d'une disparition en Argentine, c'est possible et il est possible d'atteindre un niveau de certitude relativement important. Oui, ces faits se sont bien passés tel jour, à telle heure, à tel endroit. Mais en revanche, plus la justice a une prétention universelle, la prétention de se hisser au niveau de l'histoire, plus il faut qu'elle accepte que la vérité qu'elle propose, les vérités qu'elle propose, soient sujettes à discussion. D'autant que, et c'est pour ça que je crois qu'il faudrait distinguer sa capacité de la justice de trouver, de faire justice à des faits dans l'histoire, des faits précis dans l'histoire, et qu'elle se garde toujours de se poser comme juge de l'histoire. Étant entendu que, autant on peut trouver un accord relativement facile sur des faits, autant plus on s'éloigne de faits précis, plus il faut accepter qu'il n'y ait pas de vérité judiciaire, qu'il n'y ait pas de vérité, donnée par ou qui puisse être établie de manière objective et impartiale, mais que toute l'histoire, et c'est sa condition même, soit l'objet de débats et de controverses infinies. Merci.